International pour la prévention de l'intoxication au plomb vient de s'achever.
C'était du 23 au 29 octobre. Chaque année, l'OMS et le Programme des Nations Unies pour l'environnement organisent cette semaine pour attirer l'attention sur les dangers que représente l'utilisation de la peinture au plomb. Par peinture au plomb, ces organisations onusiennes entendent des peintures à laquelle ont été ajoutées un ou plusieurs composés du plomb. C'est le cas des vernis, lacs, teintures, émo et enduit vitrifié, pour ne citer que ces produits. Selon les estimations de Institute for Health Metrics and Evaluation, en 2013, la peinture au plomb était responsable de 853 000 décès. En outre, cette peinture a occasionné 16,8 millions d'années de vie ajustées sur l'incapacité en raison des effets à long terme sur la santé. Précisons que le rôle de l'exposition au plomb dans le développement de la déficience intellectuelle chez l'enfant est particulièrement préoccupant. Dans leur plan d'activité, les organisations onusiennes réunies sous l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures à plomb fixent pour tous les pays une cible consistant à avoir en place d'ici 2020 un cadre réglementaire permettant d'éliminer ces peintures. Mais au 30 juin 2016, selon l'Alliance, seuls 62 pays ont confirmé la mise sur pied de ce cadre. D'où la nécessité de continuer la sensibilisation.
Merci beaucoup Firmin pour cette synthèse d'actualité.
Terminons ce tour d'horizon de l'actualité santé avec la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Selon les statistiques officielles, 80 000 enfants vivent avec la maladie. Le gouvernement camerounais veut éliminer d'ici 2017 les cas de contamination dus à la transmission du virus des mères aux enfants. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de la Santé publique le 25 octobre dernier à Yaoundé. C'était lors du premier forum national sur la prévention de la transmission mère-enfant. Au-delà des annonces officielles, votre santé, votre avenir a donné la parole à l'association Positive Generation qui regroupe et assure le suivi de plusieurs malades. Fogué Foguito en est le directeur exécutif. Selon lui, plusieurs malades n'ont pas accès aux médicaments.
Au-delà des discours officiels qui proclament la gratuité des soins et services pour les femmes enceintes et pour les enfants de nos politiques, on remarque que c'est des personnes qui sont marginalisées dans la prise en charge. On remarque que beaucoup de femmes enceintes continuent à être racketées, à payer des frais, or qu'elles ne devraient pas payer. C'est un exemple simple. Quand vous avez une femme enceinte séropositive ou bien enfant avec un enfant de moins de 5 ans, vous devez payer le test de dépistage d'infection à VIH. Dans beaucoup de fonctions sanitaires, du fait du manque de réactifs et de subventions, on les fait payer. Et d'autre part, d'une manière globale, sur la politique même de l'État, on voit que la prise en charge de l'infection à VIH en termes de médicaments pour les enfants manque. On a reçu l'appui de quelques donateurs, d'ailleurs, comme la Fondation Clinton. Mais ici, on voit que les enfants sont laissés tout compte dans cette prise en charge de l'infection en termes d'accès aux médicaments et aux traitements. Vous avez des fois, en fait, qui vivent dans les zones rurales. Il faut venir en ville pour chercher les parents de l'enfant. Et parfois, les quantités de commandes pour la prise en charge pédiatrique, c'est comme ça qu'on le dit, sont infimes par rapport à la prise en charge adulte.
Qu'est-ce que vous proposez pour éradiquer les cas des enfants vivant avec le VIH?
Nous pensons que la meilleure solution, c'est la prévention. Ça veut dire que toutes les femmes enceintes devraient se faire dépister. Or, pour cela, il faudrait qu'on mette un système gratuit, pas gratuit dans les mots, mais dans les faits de dépistage des femmes enceintes. Alors, vous savez, quand vous êtes dépisté tôt, il y a une prise en charge aussi précoce de l'infection à VIH qui fait que les enfants ne pourront pas, beaucoup d'enfants pourront être sans être positifs. Il faut reconnaître quand même à ce niveau, le Cameroun a connu une légère avancée parce qu'on est dans les 4% de taux d'enfants nés de mères séropositives, de mères séropositives. Mais on peut comparer à 0%. Et c'est ça que le gouvernement du Cameroun et aussi beaucoup de bailleurs ont mis beaucoup de fonds. Mais on souhaite que le gouvernement puisse réellement utiliser ces fonds-là pour ces enfants, ces femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, c'est l'avenir. Or, si on commence à lutter contre la prévention de la transmission mère-enfant, on dit qu'on en a lutté pour que le VIH ne soit plus transmissible ou des prochaines générations.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions au début de ce programme, plus de 1,9 milliard d'êtres humains sont en surpoids. En cause, la consommation excessive de graisse, celle du sucre et d'autres aliments riches en calories. En cause aussi, nos rythmes de vie de plus en plus chargés qui laissent peu de place à la pratique du sport. Pour analyser ce phénomène et aussi livrer quelques conseils pratiques, votre santé, votre avenir, s'est entretenu avec le docteur Lucie Wechoko et les médecins certifiés en nutrithérapie et en fitness.
Alors docteur, vous qui êtes donc nutritionniste, avez-vous observé que dans notre société, les personnes ont de plus en plus cette obsession de perdre du poids, d'avoir un poids idéal? Avez-vous fait ce constat et qu'est-ce qui explique ce phénomène selon vous?
Mais en fait, aujourd'hui, après 50 années de changement au niveau industrie, on a vu arriver vraiment une obésité très importante, mais aussi avec tout ce qu'on a sur le marché, une population et aussi un monde, je dirais, médical qui amène tout le monde à la minceur. Parce qu'aujourd'hui, on a tout pour grossir, mais aussi on a tout pour faire maigrir. Donc, on a cette hobby, je dirais, de la minceur comme beauté. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un virement, un changement, parce qu'on a des outils pour maigrir. Si on n'avait pas des outils, je pense qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas proposé. Ça, c'est la première chose. Mais il faut savoir que le monde médical, il y a ceux qui doivent maigrir pour des raisons de santé. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de malbouffe. Il y a les changements, il y a les peurs, le stress. Le stress fait grossir dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de stress. Les gens ont peur du demain, les gens ont peur de perdre leur boulot. Donc on est constamment dans un état de stress, de mauvais stress en fait. Et donc la malbouffe s'associe à ça, plus qu'une activité physique. Donc on est sédentaire aujourd'hui de plus en plus par rapport à nos parents qui travaillent dans les champs.
Tout à fait.
Et dont travaillent au niveau musculaire et que nous, on travaille dans les bureaux assis devant un ordinateur. Donc le stress cérébral est beaucoup plus important. Voilà, donc il y a vraiment un changement au niveau de ce siècle par rapport au siècle dernier où voilà, il y a deux façons de faire, le travail musculaire ou le travail cérébral. Donc les muscles ne travaillent plus et donc voilà, on voit arriver alors ces problèmes de dépression beaucoup plus importante, ce problème de sédentarité avec des risques cardiovasculaires, de diabète et de cancer. Voilà, ça c'est la première chose pour laquelle le médecin est aujourd'hui interpellé et donc doit amener le patient à maigrir, donc à retrouver un peu le poids idéal. Donc voilà, donc, mais aussi il y a des personnes qui se disent parce qu'ils sont minces, ils sont beaux. Voilà, donc ce qui est faux, c'est pas parce qu'on est mince qu'on est beau, donc on peut être fort et beau. Donc maintenant, tout dépend de la frustration de l'autre. Voilà, donc il y a des gens qui maigrissent par frustration et donc alors qu'ils auraient pu trouver une autre façon d'être, de se sentir bien et de ne pas être complexés et donc ils font yo-yo, ce qui n'est pas mieux. Voilà, donc ça c'est très important. Donc les femmes fortes doivent pouvoir d'abord avoir confiance en elles pour pouvoir d'abord faire un régime. Parce qu'on fait un régime quand on est frustré, c'est pas du tout la même façon, hein. C'est pas toujours la même réponse à la perte de poids. Donc les gens perdent du poids mais après ils reviennent encore aux habitudes antérieures, ce qui n'est pas bien non plus.
Oui, justement, y a-t-il un poids idéal? Y a-t-il un poids au-delà duquel on devrait commencer à s'inquiéter, on devrait détecter des signes d'obésité?
Ok, moi, premièrement, le BMI ne m'intéresse pas. Donc, ce qui est important, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de masse musculaire aussi, hein, qui ont un poids.
Tout à fait.
Ce qui est important, c'est la masse grasse, en fait. Donc, on a évalué, franchement, chez l'homme, 15%, je dirais. Donc, on peut tourner autour de 3%, 5% en plus, en moins ou en plus, par rapport à ces 15% chez l'homme. Et chez la femme, 25%. Donc, on peut se dire 3% ou 5% en plus, mais bon. Tout dépend de chacun à ce niveau-là. Mais je dis 25% de graisse chez la femme et 15% chez l'homme, c'est raisonnable. Mais au-delà du poids, c'est la masse maigre qui m'intéresse. Les os, les muscles et le poids en eau. Donc c'est ça qui va déterminer le côté métabolique de la personne. Ce n'est pas la graisse. Donc il faut essayer d'être dans ces zones de 15 ou 25% selon le sexe. Ça, c'est le poids idéal. Mais maintenant, il y a des gens à 18 ans, selon ce poids qu'ils ont eu après leur croissance, après la taille définitive, ils ont un poids et je leur demande comment vous sentez-vous à cet âge-là. Ils ont une belle silhouette, ils sont heureux. Mais après, ils développent une surcharge pondérale qui est surtout de graisse. Et donc là, on va mieux évaluer les risques cardiovasculaires pour cette personne-là. Et après, ils vont se trouver dans un poids, je dirais, qui est le leur, pas celui de la société. Il y a un poids idéal pour chacun, en fait.
Qui est lié à la masse musculaire, comme vous l'avez dit.
Oui, mais le pourcentage de graisse tourne toujours environ à 15% chez l'homme et 25% chez la femme. Toi, tu connais, toi, tu vois, oui. Voilà.
Ok. L'organisme, justement, on le sait, a besoin de vitamines, a besoin de certaines substances nutritives. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens, peut-être parfois par ignorance, décident de ne plus manger gras, de ne plus manger de la viande, de ne plus prendre beaucoup de sel, etc. Est-ce qu'il y a des risques sanitaires, des risques associés à une minceur qui serait mal effectuée?
Ma philosophie, c'est manger des bonnes graisses, mais faites de l'activité physique ou brûlez les graisses. Ça, c'est ma philosophie. Donc, les graisses apportent la vitamine E, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K. Toutes ces graisses liposolubles sont très, très importantes au niveau santé, vraiment au niveau santé. Donc, vous ne mangez pas l'œuf, mais vous mangez tous les dérivés des œufs. Donc, les gens disent que les œufs, c'est mauvais, mais ils vont manger des biscuits, tout ce qui est à base d'œufs. Mais ils ne vont pas manger l'œuf. Quand l'œuf en lui-même, de frais et de qualité. Donc, il faut manger des poissons gras, mais des poissons gras, c'est des bonnes graisses. Donc, il faut pouvoir faire des choix judicieux de qualité. Voilà, travailler la cuisson de ces animaux-là, mais ne pas fuir les graisses, mais ne pas manger en excès. Par contre, ça, je suis pas d'accord. Donc, il faut manger suffisamment, mais ça va brûler les graisses. Donc, bouger, c'est beaucoup plus important que de faire des régimes sans graisse.
Alors, justement, y a-t-il des habitudes alimentaires, une fréquence? Par exemple, certains disent qu'il ne faut pas manger avant de dormir. Est-ce qu'il faut manger peut-être une seule fois ou deux fois seulement par jour? Quelles habitudes alimentaires conseillez-vous à ceux qui veulent faire un régime?
Je demande à la majorité des personnes d'être végétarien le soir. Donc, le soir, on va manger léger, par exemple. Le soir, c'est vraiment manger léger et je mangeais le plus tôt. Il faut manger au moins 3 heures avant d'aller dormir. C'est vraiment l'idéal pour tous. Mais il ne faut pas dormir tard. Donc, moi, je dis toujours, il faut dormir 2 heures avant minuit. Donc, quel que soit le pays, le continent où se trouve. Donc, on doit s'adapter à son continent. Donc, voilà. Donc, si vous dormez 2 heures avant minuit et que vous mangez très léger le soir, au moins 3 heures avant, vous avez plus de chances d'être en bonne santé et de respecter 12 heures de jeûne. Donc, si vous mangez à 7 heures du soir et que vous remangez le matin à 8 heures, c'est déjà mieux parce que ça permet au corps de se reposer, de métaboliser mieux, le foie d'éliminer, les urines le matin, tout ça. Donc, ça, c'est important. Et même, on dort mieux. Et donc, qui dort mieux maigrit aussi et qui dort mieux est en bonne santé. Et donc, on se réveille le matin pour démarrer une nouvelle journée avec des hormones de qualité qui nous permettent de tenir une journée en mangeant sans grignoter. Donc, quand vous dormez bien, vous ne grignotez pas dans la journée. Quand vous dormez bien et que vous réveillez le matin, vous faites de la marche avant de manger, on voit que ces gens-là vivent mieux et plus longtemps et ils mangent moins. Donc, voilà. Donc, il y a des habitudes à mettre en place. C'est très, très important. Le sommeil, la durée 8 heures de sommeil, 7 à 8 heures de sommeil, de respecter 12 heures de jeûne entre 7h et 7h du matin, soit 7h du matin au moins, ça c'est très important, et de manger à des heures régulières, par exemple 8h, 13h, à 17h, une petite collation pour ne pas rentrer tard le soir, parce qu'en général on rentre à 17h et c'est trop long, donc une petite collation de fruits avec un peu de noix l'après-midi avant d'aller rentrer à la maison. Donc ça, ça peut dépanner les gens en mangeant peu et en mâchant, parce que quand on mâche bien, on mastique, on mange moins. Donc ce sont toutes des petites habitudes à prendre sur le long terme pour pouvoir contrôler le poids à distance et ne même plus s'inquiéter de la prise de poids.
Alors, justement, est-ce qu'il y a d'autres mesures additionnelles au-delà de la nutrition qu'il faut contrôler et au-delà des activités physiques? Est-ce que, par exemple, il y a des médicaments que vous conseilleriez aux personnes? Parce que de plus en plus, on rencontre des gens dans les bus en Afrique et dans certaines radios, on fait même des publicités, des écorces, des jus, des choses de ce genre. Est-ce qu'il y a une médication qui pourrait accompagner ces différentes activités que vous veniez de décliner?
Donc, première chose, c'est d'abord l'hygiène de vie dont je viens de parler. Ça, c'est capital. Donc, quand on met cela en place, c'est vrai que si vous mettez ça en place et que vous n'arrivez pas, malgré tout, dans la durée, je dirais dans les 6 mois, parce que si vous faites tout ça, franchement, vous voyez la différence, à perdre du poids, OK, on peut vous aider à ce moment-là. Donc, il faut déjà faire, c'est important pour un médecin, de pouvoir reconnaître s'il y a des troubles hormonaux, s'il y a des problèmes de thyroïde ou autres qui font que la personne n'arrive pas à perdre du poids. Ça, il faut être sûr qu'il n'y a pas ce problème-là. Mais non, si malgré tout ça, le bilan est négatif, on peut aider les gens à brûler mieux. Donc, il existe des plantes qui aident à perdre du poids, mais c'est au nutritionniste à adapter selon les silhouettes, parce qu'il y a une plante qui va pour l'autre, qui ne va pas pour l'autre personne. Donc, il faut faire des choix personnalisés pour chaque plante, parce que l'orientation n'est pas la même selon les récepteurs génétiques de chacun qui permet de prendre de la graisse ou de ne pas prendre. Donc, il est important pour moi, dans les domaines de complément, d'aller chez des personnes qui maîtrisent pour pouvoir vous aider à mieux et ne pas avoir des risques pour santé. Parce qu'il y a l'insuffisance rénale, il y a plein de choses qui sont arrivées avec des compléments qui n'étaient pas adaptés. Donc, il faut se faire aider, pour moi.
Merci, docteur, d'avoir répondu aux questions de la VOA Afrique.
Merci en tout cas, j'espère vous avoir aidé et les personnes qui vous écoutent. Mais je dirais tout simplement, il faut bien dormir, ça c'est très très important, le sommeil, la durée, 7 à 8 heures. Il faut bouger le matin avant de manger, c'est la marche, il faut marcher le matin avant de manger, ça c'est très important, 30 minutes de marche tous les matins. Manger 3 repas par jour en mastiquant, ça c'est important, prendre le temps de mâcher, ne pas travailler en mangeant. Ça, c'est important. Ça, c'est des modes de vie à prendre. Et puis, respecter les heures entre les repas. Boire beaucoup d'eau en dehors des repas. Ça, c'est important. Et surtout, ne pas manger et aller dormir tout de suite. Voilà. Et être cohérent avec soi-même. Donc, c'est tout cet ensemble qui va faire en sorte que nous restions en bonne santé et garder son propre long terme.
Nous remercions le docteur Lucie Wetchoko. Pour la contacter, c'est très simple. Rendez-vous sur le site internet sixbien.be.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Ceux qui ne l'ont pas revu depuis 4 ans en tomberaient des nues. Il a quoi, malade ou victime de faim chronique. Pourtant, la Camerounaise Rosie Mekomou a fait le choix de perdre volontairement du poids. En 2 ans seulement, elle a perdu, tenez-vous bien, 60 kilos. Une remarquable prouesse. Pour y parvenir, Rosie a dû faire d'énormes sacrifices. Votre santé, votre avenir a recueilli son témoignage.
J'ai perdu 64 kilos en 2 ans.
Wow.
Mais j'ai toujours été obèse. Depuis l'âge de 15 ans, si vous voulez, j'ai toujours été obèse. J'ai toujours lutté contre le poids, en fait. Et quand j'allais voir la diététicienne, généralement, on me proposait des menus, si vous voulez, qui ne me parlaient pas beaucoup. C'est-à-dire que j'allais devoir manger la sauce blanche, des carottes à l'eau, des épinards à la crème. Je commençais, j'arrêtais parce que je ne me retrouvais pas trop dans mes assiettes. Donc moi, pendant mon processus de perte de poids, j'ai décidé, si vous voulez, d'étudier un peu les aliments de chez nous parce que je me suis rendu compte qu'on a trop tendance à diaboliser les plats africains, soit parce qu'ils sont trop gras, trop riches. Donc j'ai pris le temps pendant les 2 ans de ma perte de poids d'étudier les plats de chez nous, voir si je peux maigrir en mangeant camerounais. Et je me suis rendu compte que oui, j'arrive à maigrir en mangeant le lait, j'arrive à maigrir en mangeant la sauce d'arachide, j'arrive à maigrir en mangeant la sauce gombo. Donc voilà, j'ai appris à faire les aliments de chez nous sans trop de gras. Et même quand il y a du gras, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer plutôt avec la quantité. Et même si je mange en quantité importante, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de rester couché dans mon canapé, je vais me lever, je vais aller marcher 30 minutes, vous voyez?
Et donc, vous faites attention à ce que vous mangez et vous faites du sport. Combien de fois vous faites du sport par semaine?
Pendant la principale phase, et la plus difficile, la plus importante, c'est la stabilisation intermédiaire. Je fais le sport, je faisais, parce qu'à l'époque, quand je maigrissais, je faisais le sport et mes gars en font le sport 6 fois par semaine avec un jour de repos le dimanche. Et quand elles ont perdu la totalité de leur poids, on ramène à 4 fois par semaine. Donc voilà.
Ça vous a pris combien de temps pour perdre du poids?
Alors moi, ça m'a pris 2 ans pour perdre les 60 kilos. J'ai d'abord perdu 60 kilos. Et l'année dernière, quand j'ai fait ma tournée africaine, j'ai perdu 4 kilos. Donc je suis stable depuis 2 ans et demi à peu près.
D'accord. Et quelle est votre satisfaction?
Alors, c'est-à-dire...
êtes-vous satisfaite à 100% ou vous avez encore du travail à faire?
Alors, je dirais que j'ai pratiquement terminé parce que ça fait 5 ans que j'ai perdu les kilos en trop. Par contre, si vous voulez, en 2012, on m'avait détecté le diabète, le rhumatisme et la graisse autour du cœur. Donc, j'ai été, en perdant les 60 kilos, je n'ai plus de diabète parce que mon diabète était lié à l'obésité. Je n'ai plus de diabète. Je n'ai plus mal aux genoux, mal au dos parce que j'ai 60 kilos en moins, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai plus de rhumatisme. Et la graisse, elle est passée de 99% à 0,1%, qui est la norme, en fait, chez toute personne normale.
Alors, Rosie, un petit conseil à ceux ou à celles qui veulent perdre du poids et peut-être qui sont désespérés, qui se disent finalement je suis née comme ça, je suis créée ainsi. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Moi, j'ai envie de leur dire tout est possible. Tout est possible, il n'est jamais trop tard. On peut décider de changer sa vie à tout moment. rester positive, rester croire en fait que qu'on peut y arriver, rester motivé, surtout s'entourer des personnes qui peuvent nous soutenir dans notre démarche. Et ça passe par le changement des habitudes alimentaires, le changement des habitudes sportives, le changement de la gestion de son sommeil et de comment on gère son stress. Ça passe par tous ces éléments-là.
Merci beaucoup, Rosie Mekomu, de nous accorder votre témoignage. En tout cas, impressionnant. On espère que ça va aider pas mal de gens.
Merci. Have
okay.
a nice day.
OK, merci. Bye. À toi aussi.
Et puis, pour partager son expérience, Rosie Mekomu a mis sur pied un programme de minceur intitulé Ikonga, un programme que vous pouvez retrouver sur voafrique.com et sur Facebook. Nous disons donc merci à Rosie pour son témoignage.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Bonjour docteur.
Vous étiez aussi nombreux à nous contacter pour avoir des réponses à vos questions de santé. Voici venu le moment de vous donner la parole, chers auditeurs, et surtout d'obtenir les réponses d'un spécialiste. Le docteur Armand Nguenkap, médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France, répond à vos questions. Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Irénée Djegolbe. Vous nous appelez d'où?
Oui, de Ngaoundéré au Cameroun.
Du Cameroun. Irénée, vous avez une question pour notre expert.
Oui, alors ma question, bon, je disais que il m'arrive des fois que Dieu me démange.
Pardon?
Je disais, il m'arrive parfois que les yeux me démangent et je ne sais de quel phénomène il s'agit. Et comment faut-il faire pour remédier à cela?
Donc, le remède à vos yeux qui vous démangent?
Oui.
OK. Merci beaucoup, Irénée, d'avoir appelé. Et le docteur Nguenkap va vous répondre.
Irénée appelle de Ngaoundé au Cameroun. Et précise qu'il souffre très souvent de démangeaisons au niveau de ses yeux. Il voudrait par ailleurs connaître la cause de ces démangeaisons et un éventuel traitement. Ce que je peux apporter comme information à Irénée, c'est que les causes de démangeaisons des yeux sont multiples. Ça part d'une cause d'origine allergique, en passant par une cause infectieuse et même en allant jusqu'à une cause en rapport avec un corps étranger dans l'œil. C'est pour cette raison que j'invite Irénée à consulter bien évidemment un médecin ou un ophtalmologue, un spécialiste des yeux, pour pouvoir établir la cause précise de ces démangeaisons oculaires, de ce prurite oculaire et déterminer le traitement adéquat.
Merci docteur.
Votre santé, votre avenir touche à sa fin. Nous avons consacré cette édition à la perte du poids, un véritable phénomène de société dans un monde où le surpoids touche près de 2 milliards de personnes. Pour comprendre les contours, les implications sanitaires et astuces, nous avons sollicité l'expertise du docteur Lucie Wichoko, médecin nutritionniste. De la théorie à la pratique, nous avons aussi recueilli le témoignage de Rosie Mekomu, une Camerounaise qui a perdu 60 kilos en 2 ans. Un succès qui lui a inspiré la mise en œuvre d'un programme de minceur intitulé Ikonga. Nous leur disons merci.
Nous remercions également le docteur Armand Nguenkap pour sa disponibilité aux auditeurs. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Georges Léonard Sagno était à la réalisation. Et à la console, nous étions avec Richard Smith. À la présentation, vous étiez avec
Mouamadou Oumfa
et moi-même Rosine Mounezero. Continuez à nous adresser vos questions, remarques et suggestions sur la page Facebook de VOA Afrique. N'oubliez surtout pas, d'ici la prochaine édition, de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
Au revoir.